Chapitre 4. Parmi les tableautins originaux que Londres présente sans cesse à la badauderie amusée du voyageur français, aucun n'est plus singulier peut-être que l'aspect des grandes gares entre 5 et 6 heures du soir le samedi pendant la saison. Toute la société anglaise défile sur les quais de bois de ces gares pour se disperser à 60, à 80, à 100 milles à la ronde, valsing, c'est leur mot, dans quelqu'un des innombrables châteaux, loges, maisons, abbayes, manoirs des comtés avoisinants. C'est le pendant des autres soirs où, de 7h à 8, dans le haut Piccadilly, les hansoms sont blancs des plastrons glacés, des gilets piqués et des cravates de marbre, arborés par la légion des gens qui dînent en ville. Dans ce pays d'affaires, où l'on ne se voit qu'à table, ce dîner en ville est une institution. C'en est une autre que cette manie de faire des 2 heures d'express pour éviter l'intense ennui du dimanche londonien. Et puis, ces fugues du samedi soir, suivies de si près par le retour du lundi matin, satisfont ce goût d'être en l'air qui caractérise les Anglais. Il faut toujours qu'ils bougent, qu'ils aillent, qu'ils dépensent dans du mouvement leur fond infatigable d'activité. C'est ce qu'expliquait, parmi le tumulte de la gare de Paddington, un des invités de la partie de Lady Semley, le spirituel mais fatigant Lord Helston, à Bertrand Dédy, lequel ne lui prêtait qu'une oreille très distraite. Depuis ces 24 heures, le roué innocent, beaucoup plus innocent dans cette circonstance que roué, n'avait plus osé reparaître devant Aliette de Lautrec. Il attendait avec une impatience presque fiévreuse qui aurait donné beaucoup à réfléchir à Emmeline sur les dangers des amis écrans. Cette demi-attention du jeune homme suffisait à Lord Helston, profondément heureux de cornaquer un Parisien. C'était un de ces grands seigneurs britanniques qui ont dépensé leur immense revenu depuis qu'ils existent à voir tout ce qui peut se voir ici-bas, tous les pays d'abord, puis toutes les personnes. Les Anglais ont encore un mot, presque intraduisible, pour cette manière de voyager qui, chez certains d'entre eux, devient une manière de vivre, « sightseeing ». Celui-là avait causé avec Napoléon III, le pape Pie IX, Garibaldi, Gambetta, Bismarck, Wagner, le général Boulanger, l'empereur Ménélic, Longfellow, Don Pedro, qui n'avait-il pas approché parmi les hommes notables de son temps. Il avait séjourné aux Indes, en Chine, au Japon, dans l'une et l'autre Amérique. Il avait suivi la première moitié de la guerre franco-allemande dans l'état-major du prince royal, et le siège de Paris dans celui du général Trochu, avec cette étrange curiosité d'outre-Manche qui se prête indifféremment à tous les spectacles, pourvu qu'ils soient excitants. C'est leur formule, et qui explique bien la sorte de sensation sèchement nerveuse que leur flegme demande à la vie. Celui-ci était un homme de 60 ans maintenant, très mince, et qui, avec son visage maigre et rasé, en paraissait à peine 50. Il causait bien, mais il le savait trop. Il disait « Vous allez avoir une vraie carte d'échantillon de l'Angleterre, mon cher monsieur Dédy, rien que dans ce wagon. » Et il montrait la voiture de première classe que Lady Semley avait fait réserver pour ses invités. « Mais oui, avec Lady Helston, ma femme, vous avez un type de la vie politique de ce pays. Vous savez qu'elle est socialiste ? Oh, d'un socialisme très eau de rose. Vous dites cela, n'est-ce pas ? Nous disons, nous, « milk and water », eau et lait. Les Français sont plus artistes que nous, même dans leurs proverbes. Il eut, pour prononcer cela, cet indéfinissable sourire de condescendance insolente qui est trop volontiers celui de ces orgueilleux insulaires lorsqu'ils complimentent un étranger. Tout de même, continuait-il, aux dernières élections, elle a délogé le candidat conservateur. Avec Sir John Rigg, vous aurez un bel exemplaire du vrai sportsman de notre pays. Vous ne l'avez pas rencontré ? Non, il est capitaine au bleu, mais il passe 6 mois sur 12 en Afrique à chasser la grosse bête. Il tient le record du lion. Il en a tué, je crois, 52. Il y aura aussi Lord Kilpatrick, le vieux juge. Lui, c'est l'Angleterre religieuse. Il est un des 3 ou 4 partisans de ce que nous appelons la Haute Église, qui voudrait s'entendre avec Rome. Il aime un peu trop le vin de Porto, à la vieille méthode. C'est son seul défaut. Vous aurez les Ronald Barrett, des gens de yacht, et Lady Adrahan et sa fille, des femmes de cheval. Politique, religion, chasse, yachting, cheval, et, si vous me permettez de me compter, voyage, c'est toute l'Angleterre en 6 mots. Mais voici notre monde qui arrive à la fois. Allons aider ces dames, voulez-vous ? Les différentes personnes énumérées par le Lord polyglotte et dilettante débouchaient en effet l'une après l'autre parmi les allées et venues des grandes brouettes à mâles manœuvrées par les facteurs. Des petits garçons allaient, portant devant eux, dans un panier, qui des journaux et des revues, qui des fruits, d'énormes raisins de serre et de grosses fraises. Une atmosphère de suie et de charbon enveloppait cette scène de départ. Chacun traversait le quai à sa guise, gagnant un des trains préparés sur une des 5 ou 6 voies. De 5 minutes en 5 minutes, un des employés en uniforme levait un drapeau, un garde sifflait, le train partait aussitôt à toute vitesse pour être, à la minute, remplacé par un autre. Que de fois plus tard, Daddy devait revoir en imagination ce décor d'une activité si mécanique, si réglée, et l'apparition, rendue plus gracieuse par ce brutal contraste, des 2 femmes qui occupaient une telle place dans sa vie sentimentale. Madame de Sarliève, si fraîche, si jeune, dans sa toilette d'un drap vert éteint, lui adressa, sitôt qu'elle l'aperçut, ce sourire de la maîtresse heureuse où il y a un peu de tout, du mystère et de l'aveu, de la prudence et de la fierté. Il vit ce sourire et il en fut touché, moins pourtant que de la pâleur qui révélait sur les joues de l'autre de la réservée et modeste Aliette, rendue plus pâle encore par la nuance gris clair de sa toilette et les lassitudes de l'insomnie. Il ne lui en fallut pas davantage pour s'en rendre compte, Madame de Lautrec avait remarqué son mensonge d'hier, et à travers ce mensonge, elle avait soudain soupçonné la vérité. Il en éprouva bien un peu de honte, mais si cette vérité la peinait déjà, quelle preuve qu'il ne lui était pas indifférent. À la secrète émotion que lui causa cette subite évidence, qu'il intéressait si vivement la pieuse marquise, il eût dû avoir peur. Lié comme il était avec Emmeline, dans quelle complication le précipiterait un sentiment profond, inspiré à l'autre, et après le jeu qu'il avait joué ? J'ai déjà trop dit que c'était un amoureux de l'amour, et il est certain qu'en s'installant sur un des sièges du compartiment où Madame de Lautrec prenait place elle aussi, les calculs de la prudence étaient bannis de sa pensée. Il aurait voulu être seul avec elle, lui parler, s'expliquer, obtenir qu'elle ne le regardât pas avec des yeux si distants. Mais cet effort de froideur ne trahissait-il pas, dans sa tristesse évidente, des sentiments bien flatteurs pour l'amour-propre du jeune homme ? Et il en oubliait de prendre garde à d'autres yeux, ceux d'Emmeline, qui, d'abord rayonnant de gaieté tendre, s'assombrissait à mesure qu'il constatait la trop visible préoccupation de Daddy pour la pâle et nerveuse Aliette. Et cependant, le train allait, lancé à libre vapeur. Il devait marcher ainsi, sans s'arrêter qu'à Reading, puis à Oxford et à Banbury. Là, une locomotive devait attendre le wagon des invités de Lady Semley, les conduire par une ligne spéciale à la petite station du Northamptonshire qui dessert Semlen Manor. En tout, 4 étapes, chacune d'environ 3 quarts d'heure à peine, tant cet express était rapide. Et le fracas de cette folle course était tel qu'à peine si les voyageurs pouvaient échanger quelques mots, assez cependant pour que les 2 personnes qui se trouvaient là avec les 2 Parisiennes, Daddy et Lord Elston, justifiassent, par les lambeaux de leurs discours entendus au hasard, les présentations qu'avait faites le mari de la pairesse radicale. C'était d'abord le gigantesque Kilpatrick, le vieux juge écossais, magnifique de santé à 76 ans, avec un teint de pourpre, dans l'encadrement de ses cheveux et de sa barbe blanche. Il narrait en mauvais français à Madame de Lautrec, la sachant bonne catholique, des anecdotes qu'il croyait intéressantes pour elle sur le mouvement d'Oxford. En tout temps, les noms de Peset, de Ward, du doyen Sandley et du recteur de Lincoln, Mark Pattison, eussent été des énigmes pour la charmante femme. En ce moment, et dévoré de ce passionné désir de savoir la vérité sur les rapports d'Emmeline et de Bertrand, on pense de quelle oreille elle écoutait le juge raconter en vue de la vieille ville universitaire. « Tenez, madame, d'ici vous apercevez les dômes. Il y en a un qui me rappelle un bien étrange souvenir. celui de la bibliothèque Radcliffe, là, à droite. Et, à côté, il y a une autre bibliothèque, la Bodléienne, mais d'ici, vous ne pouvez pas distinguer. En février 1845, par la plus épouvantable tempête de neige, on devait juger un des maîtres du collège de Balliol, M. Ward, dans notre grand théâtre. Nous détestions le vice-chancelier qui avait provoqué cette affaire. Il s'agissait d'un passage du livre de Ward, trop favorable à l'Église romaine, à cause duquel on voulait le priver de son degré. Je suis monté sur le toit de cette Bodléienne, tel que vous me voyez, avec deux amis, et par un des carreaux ouverts de ce théâtre, nous avons bombardé de neige la place où devait s'asseoir le vieux vice-chancelier. Nous sommes restés à cette besogne une heure durant. Sans un certain whisky qui me venait de mon père, nous serions morts de froid. Nous avions de la neige jusqu'à la ceinture. Mais je dis toujours cela, bon sommeil et bon whisky, on vit très vieux et bonne conscience. Ajouta-t-il en riant de son propre dicton, ce que Ward avait, et pas le vice-chancelier. Que vous disais-je ? Soufflait Lord Heston à Bertrand, qu'il avait décidément adopté, car il s'était mis à côté de lui. Il est persuadé que Madame de Lautrec s'intéresse au puséisme. Vous appelez ça le dada et nous le fade. Nous avons tous un fade, plus ou moins, dans notre pays. Tenez, écoutez l'autre. Vous verrez de bien belles collections de bêtes à Semlin-Ménor, disait en effet Sir John Rigg à Madame de Sarliève, qui trouvait le moyen, elle, de prêter attention aux chasseurs sans trop perdre du regard ni Aliette ni Daddy. Semlet a été le meilleur fusil de l'Angleterre. Il ne chasse plus depuis 10 ans à cause d'une plaisanterie que des officiers de notre armée lui ont faite en Égypte. J'étais au Caire alors, j'y ai assisté sans en rien savoir. Semlet arrive et parle chasse, comme nous tous, naturellement. Ces jeunes fous lui proposent d'aller tuer des crocodiles sur le Nil où il n'y en a plus. Semlet accepte. Nous partons en 3 barques. Il voit une forme dans un îlot qu'il reconnaît pour celle d'un grand saurien. Il l'ajuste, son cou part. L'animal ne bouge pas. « Je suis sûr de moi, » dit Semlet, « j'ai visé à l'œil, il est mort. » Nous ramons jusqu'à l'îlot. C'était un crocodile empaillé que ces messieurs avaient fait mettre là, et c'était vrai que la balle l'avait frappé droit sous la paupière. « Ah, l'excellente balle !» Semlet nous a regardés. Je vous assure que personne n'avait l'idée de rire. Il a été si furieux qu'il est parti pour l'Europe le jour même et il n'a jamais plus chassé. C'est dommage. À travers ces propos et d'autres semblables, et dans cette vertigineuse vitesse, le train avait atteint Banbury. Le wagon, détaché du Grand Express, s'était engagé sur le lacis du petit réseau local, tracé à travers le plus verdoyant des paysages. Par ce crépuscule ouaté de brume bleue, les vastes prairies où paissaient les libres chevaux, les profonds feuillages des chênes et des hêtres, l'eau sombre et lente des rivières, se fondaient dans une atmosphère d'une douceur humide qui achevait d'attendrir Daddy. À cette minute, pour la première fois, il se rendit compte qu'il était en train de devenir réellement amoureux d'Aliette, laquelle continuait à se tenir dans l'angle du wagon, impassible en apparence, en réalité bouleversée elle aussi de ce qu'elle commençait de son côté à s'avouer, de ce qu'elle s'avoua tout à fait quand, arrivée à la station et à la descente du train, elle vit Emmeline prendre Daddy à part et lui parler vivement. « Que lui dit-elle ? Ah, je sens que je ne peux pas supporter qu'il se parle. Mon Dieu, que c'est mal ! Je suis jalouse !»« Écoutez, Bertrand, avait commencé Madame de Sarliève. » « Ne regardez plus Aliette comme cela, je ne peux pas le supporter. »« Mais vous savez bien, répondit-il avec un embarras qui ne devait pas échapper à la fine comtesse, que j'ai seulement peur qu'elle ne soupçonne quelque chose. »« Ah, si c'était vrai !» fit-elle avec plus de passion encore et répétant le mot que l'autre se prononçait tout bas à la même seconde. « Je deviens jalouse, » dit-elle. Puis, tout haut et de nouveau rieuse, vous allez monter dans la même voiture que moi, et vous aussi, Lautrec. » Et elle interpellait le mari de son amie, de sa rivale soupçonnée, afin d'être bien sûre que cette rivale, d'après la grande loi de séparation des ménages, prendrait place dans une autre Victoria. Cette prudente ruse ayant réussi, l'aimable femme fut tout à fait gaie, durant la demi-heure, que la procession des voitures envoyées par Lady Semley mit encore à gagner le manoir, une vaste construction carrée, toute rouge, dans le style des Tudors, et c'était autour de la vieille bâtisse cet enguirlandement d'épais feuillages où se complaît le goût des Anglais. De jeunes verdures sur de vieilles murailles, c'est la description de presque tous les châteaux, et c'est le symbole de leur vivante et sage civilisation qui a su durer, appuyer tout son présent sur tout son passé, se développer en se conservant. Il faut croire que chaque passion a sa poésie divinatoire, fût-ce une passion aussi enfantine que la fierté nobiliaire, car des invités qui s'acheminaient ainsi vers ce paisible château, aperçus à l'extrémité d'une longue avenue de tilleuls en fleurs dont l'arôme embaumait l'air, le plus vivement remué par cette magnificence séculaire, était Antoine de Lautrec qui s'écriait « Si la France n'avait pas fait la Révolution, que nous en aurions, nous, de châteaux pareils ?» Il est vrai, ajouta-t-il en soupirant, que la châtelaine de celui-ci est une juive convertie, la fille d'un banquier de Hambourg. Vous ne saviez pas cela ? Et pourquoi pas ? Repartit gaiement Emmeline, tout à fait heureuse maintenant, et qui respirait avec volupté l'odorante haleine des tilleuls. « Mais oui, » continua-t-elle, devant le visible scandale du pauvre Lautrec, qui professait les préjugés antisémites d'un grand seigneur d'aujourd'hui, mais dosé. Trop bien élevé pour aucun fanatisme, il se tenait cependant sur une réserve qui lui permettait de n'accepter qu'une invitation sur trois dans certaines maisons. Je ne sais plus qui me citait l'autre jour ce mot de Lord Beaconsfield. Les Juifs dans un pays sont comme le homard dans un estomac, excellent pourvu qu'on le digère. Vous ne trouvez pas cela drôle ? Et mon interlocuteur ajoutait, les Anglais digèrent tous les étrangers, les Juifs comme les Américains, les Allemands comme les Italiens, et ils en font de la bonne vie anglaise. Que n'en faites-vous autant en France avec vos Israélites ? Et, ma foi, il avait raison. D'autant plus, dit Bertrand, que sans l'argent de Lady Semley, le château serait probablement en ruine, et quel dommage! Mais chut, la voici! La mince et chétive personne, objet de ses réflexions, se tenait debout sur le perron de la vieille demeure seigneuriale dont sa fortune et son mariage l'avaient faite la châtelaine. C'était une femme de 40 ans, avec de magnifiques yeux noirs, brûlant de flamme intérieure dans un visage busqué, un peu long, et qui trahissait l'origine orientale. Son père, un tout petit boutiquier de Hambourg, avait débarqué un beau jour dans la cité, après quelles épreuves, on ne devait jamais le savoir. Puis il était mort 20 fois millionnaire et beau-père d'un lord anglais. Ce profil contrastait avec le style de la bâtisse et le paysage, presque autant qu'avec la physionomie si anglo-normande de Semley, dont les longues dents, les favoris rouges et le teint couperosé évoquaient l'idée d'un milord caricatural de nos anciens vaudevilles. Le premier aspect de ce ménage, attendant ses invités, semblait justifier la protestation que le descendant des Lautrec formula de nouveau à voix basse en aidant Emmeline à descendre de voiture. « Vous direz ce que vous voudrez, elle n'est pas la dame de ce château. » Mais il suffisait d'avoir passé le seuil de cette porte, au-dessus de laquelle se lisait, sculptée dans la pierre, la devise des Semley, Perseverando, pour constater que l'étonnante intelligence et la merveilleuse adaptabilité de la race israélite avaient fait de cette chétive créature à mine souffrante, justement la gardienne qu'il fallait au musée des trésors amassés dans l'antique demeure par une séculaire lignée. Elle avait consacré l'énorme fortune, héritée de l'homme d'affaires, à sauver de la destruction et de la dispersion les innombrables reliques de 900 ans d'aristocratie. Le chef des Semley est un des Normands qui figurèrent dans ce célèbre livre de jugement où Guillaume le Conquérant a établi le cadastre de tout son vaste royaume. Partout, dans le hall où les lions, les tigres et les caribous tués par le chasseur se voyaient au-dessous de portraits d'ancêtres par Zuccaro, Holbein, Titien, Van Dyck, dans les couloirs où pendaient des tapisseries rapportées de Flandre à l'époque des guerres de Malbrou, dans la salle à manger tendue d'un cuir de cordoue commandé en Espagne par un Semley, ambassadeur auprès de Philippe II, dans les salons où rayonnaient, à côté d'un Raphaël aussi beau que ceux de Bridgewater House, 20 chefs-d'œuvre des maîtres de l'école anglaise, Reynolds, Romney, Hoppner, Gainsborough, Lawrence, On retrouvait la trace successive des générations qui avaient persévéré, en effet, 900 ans, et la pauvre petite juive, l'héritière par le sang d'une lignée de persécutés et de proscrits, participait à cette triomphante et opulente tradition par l'espèce de ferveur avec laquelle son vif et soigneux esprit se l'était assimilé. Ingénument, si l'on peut appliquer ce mot à une nature et une patience si réfléchies, elle remplissait ce qui est la mission et l'ennoblissement des richesses récentes, continuait l'œuvre des morts et en réparait les désastres. Par un miracle de la volonté, cette fille d'une tribu d'Orient s'était si complètement identifiée à ce château, à ses objets d'art, à ce pays, qu'en les montrant, sa physionomie de Judith maigre se faisait vraiment anglaise. Elle présentait, après Lord Beaconsfield et tant d'autres, une preuve frappante de ce que peut cet étonnant milieu britannique sur une destinée. Si superficiels que fussent Bertrand d'Eddy et Madame de Sarliève, et quoique bien préoccupés de leurs propres intérêts de cœur, ils ne purent s'empêcher d'être saisis par la singularité que la jeune Française formula de sa manière gamine en rappelant l'étrange comparaison de l'auteur de Lothair et disant à Lautrec « Eh bien, le homard est-il assez digéré ?» Elle avait jeté cette plaisanterie du pas de sa chambre avant d'aller s'habiller pour le dîner et, en voyant de la pointe des doigts un baiser à Aliette, elle ajouta « Antoine t'expliquera cette drôlerie et tu riras. » Comment Emmeline a-t-elle pu croire que je trouverais de l'esprit à une si vulgaire sottise ? Fit Madame de Lautrec avec une mauvaise humeur non dissimulée quand son mari lui eut expliqué en quelques mots cette malicieuse boutade culinaire de l'ironique Dizzy, comme ses fidèles appellent encore l'admirable Disraeli. Il se tenait dans un petit salon qui séparait les deux chambres à coucher de leur appartement. L'infortuné Lautrec, qui, depuis ses 36 heures, attribuait mentalement la nervosité de sa femme à son propos malveillant contre Dédi et Madame de Sarliève, se crut très habile de revenir sur ce délicat sujet. Il prit prétexte de leur course en voiture, depuis la gare jusqu'au château. C'est assez commun, en effet, mais Emmeline est si gaie. Elle s'amuse de tout comme une enfant. Que vous aviez raison, hier, de la défendre contre mes mauvaises idées. Je les ai bien observées tout à l'heure, Bertrand et elle. Il n'y a rien entre eux, absolument rien. J'en mettrai ma main au feu maintenant. Aliette ne répondit pas, mais son joli front se plissa d'une ride soudaine où le maladroit put lire qu'il avait commis un impair de plus. Il en demeura si saisi qu'il regarda sa femme passer brusquement dans sa chambre, en proie à une véritable consternation. Qu'ai-je dit encore qui lui a déplu ? On croirait à présent qu'elle est furieuse de la bonne opinion que j'ai d'Emmeline. Pour cette fois, le mari y voyait juste, mais comment eut-il compris le détour singulier de pensée par lequel la femme jalouse lui en voulait d'avoir couvert de sa présence cette promenade en voiture des deux amants assis l'un en face de l'autre? Elle avait souffert durant cette demi-heure d'une souffrance si aiguë qu'elle ne se rappelait pas avoir jamais rien éprouvé de pareil, et tandis que sa femme de chambre la coiffait et l'habillait pour le dîner, dont le premier coup venait de sonner, 20 petites idées piquaient son cœur comme autant de fines aiguilles tour à tour brisées dans la plaie. Elle lui a défendu de monter en voiture avec moi, j'en suis sûre, et il a obéi. Cela ne devrait pourtant pas me causer cette peine. S'ils m'ont menti tous les deux depuis 2 ans et comme cela, c'est vraiment trop triste. Elle, une fausse amie, et lui. Sa pure et tendre imagination reculait, épouvantée comme devant une souillure, à la pensée du jeune homme regardant la perfide Emmeline, lui parlant, l'embrassant, et, comme Aliette était femme après tout, et qu'elle se voyait dans le miroir de sa toilette, défaite par son insomnie de la nuit dernière, les larmes au bord des yeux, les traits altérés d'inquiétude, elle se disait « Emmeline est si belle, si vivante, si gaie !» Elle n'osait pas ajouter « Et moi ?» Mais ces deux petits mots se prononçaient en elle, malgré elle, et la jalousie continuait son obscur travail contre quoi elle n'avait déjà plus la force de lutter. Toute la soirée se passa dans ces alternatives d'abandon à la sensation cruelle ou de résistance. D'abord, de constater, aussitôt assise à la table du dîner, que Bertrand se trouvait placé de nouveau à côté d'Emmeline, lui fut un supplice. En vain, l'homme des yachts, Ronald Barrett, assis auprès d'elle, lui prodiguait-il les anecdotes sur les régates de course et sur des croisières dont une n'avait été rien moins qu'une véritable expédition au pôle Nord. Plus tard, et quand les femmes eurent passé dans le salon et laissé les hommes continuer de boire et de fumer, en vain Lady Hardraham, Lady Helston et Lady Semley lui racontèrent-elles tour à tour l'une ses chasses à courre du dernier hiver, l'autre les épisodes de sa dernière visite à un meeting socialiste, la troisième l'histoire des trois plus beaux Reynolds du salon vendus par le précédent Lord Semley et qu'elle avait, elle, cherchés à travers le monde et dénichés tous trois aux États-Unis où elle les avait rachetés. En vain aussi, Emmeline de Sarliève, que ce trouble visible inquiétait un peu, s'approcha-t-elle à un moment pour lui dire, avec une simplicité si bien jouée qu'elle aurait dû désarmer tous les soupçons, qu'elle les aurait tous désarmés la veille. « Qu'as-tu, mon Aliette? Tu es si étrange ce soir. » « Moi ?» fit Madame de Lautrec, et ses paupières battirent d'un tressaillement involontaire qui démentait seule sa réponse. « Mais je n'ai rien, j'ai pris froid sans doute. Une bonne nuit et il n'y paraîtra plus. » « Tu n'as rien ?» répéta la défiante Emmeline. Puis Caline, elle osa demander « Rien contre moi ?»« Contre toi ?» répondit Aliette en se levant. « Et que veux-tu que j'aie contre toi ?»« Bertrand avait raison, » pensa Emmeline. « Elle n'a peut-être pas deviné la vérité, mais elle brûle. » Cette fois, j'ai trop senti qu'elle me mentait, se disait l'autre. Et pourtant, est-ce possible? Ah, une preuve, une seule preuve, et du moins je serai tranquille. Cette incertitude me fait trop mal. Cette preuve que la jalousie de l'inconsciente amoureuse implorait déjà, en croyant y trouver un apaisement, le hasard devait la lui donner cette nuit même, et finir aussi de lui révéler à quelle profondeur la cour discrète de l'amant de sa rusée amie lui avait pris l'âme. Jusque-là, elle avait pu douter non seulement de la liaison d'Emmeline avec Daddy, mais surtout de sa propre passion pour le jeune homme qu'il avait promu depuis tant de mois au rôle ironique d'un paravent d'amour. Ces ténèbres de son entourage et de son propre cœur allaient être éclairées du coup. Vers une heure, ne pouvant dormir, elle essayait de tromper l'insomnie en lisant un livre dont elle oubliait les phrases à mesure. Il lui sembla qu'elle entendait un pas dans le couloir et que ce pas s'arrêtait à sa porte. Par un mouvement instinctif, elle éteignit la lumière. Le pas s'éloigna. Elle s'élança de son lit, non moins instinctivement, et avec une précaution de coupable, elle, l'innocente, elle fit tourner la clé dans la porte qu'elle entr'ouvrit sans bruit, lentement, pas assez lentement, pour qu'en avançant un peu la tête, elle ne pût voir une forme furtive se glisser par l'entrebâillement d'une autre porte, et cette forme avait l'élégante silhouette de Bernard Daddy, et cette porte était celle de l'appartement d'Emmeline de Sarliève.